rediscuter les modalités de participation comme le calendrier.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film.
Ça
il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Merci Daniel. Merci pour la Tunisie. Merci pour l'Égypte. Merci de donner la place à la différence. Merci de refuser l'indifférence. Youssef de Lille.
Oui, bonjour, c'est Amina Daltour. Je vous demande, s'il vous plaît, de donner de la chance de s'exprimer à votre antenne des peuples égyptiens. Je suis égyptienne d'origine, j'habite dans l'Aviron, je suis mariée avec un Français. Je voudrais qu'on laisse le peuple égyptien qui réside en France, qui ne se trouve pas à Paris, de participer avec leurs frères là-bas en Égypte et montrer combien et jusqu'à quel point nous voulons des changements de ce régime. S'il vous plaît, donnez-nous de la chance de s'exprimer et montrer à la France entière que nous sommes avec nos frères en Égypte et qu'on ne veut plus de ce Moubarak, de cette dictature. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Quand tu commentais hier les événements qui se déroulent actuellement en Égypte, tu as évoqué le vent de liberté qui a commencé à souffler dès les années 80. Il serait parti de l'Europe de l'Est pour gagner ensuite l'Amérique du Sud. Et même une partie de l'Afrique. Mais d'après toi, pas l'Afrique du Nord jusqu'à l'avènement de la révolte tunisienne. Tu as dû certainement t'absenter pour aller je ne sais pas où, en tout cas très très loin, entre octobre 1988 et janvier 1992, pour ainsi rater un événement de même nature, aussi important et spectaculaire que ce qui se passe actuellement en Tunisie et en Égypte. Je parle des révoltes populaires qu'a connues l'Algérie à partir d'octobre 1988, suivie d'une expérience démocratique qui a duré 3 ans, une parenthèse qui a été arrachée au prix exorbitant de plus de 1000 morts, rien qu'en octobre 1988, des milliers de blessés et plusieurs autres milliers de prisonniers et de torturés. Il est vrai que cela a mal fini, encore plus mal fini que ça a commencé, puisqu'au bout du compte, le pouvoir a réussi sa restauration et a fait payer très très cher le peuple algérien pour son audace. Mais comme tu dis souvent, on ne gagne pas toujours. Mais ce n'est pas une raison pour oublier cet épisode de l'histoire récente de l'Afrique du Nord. Je pense même qu'il est utile de le rappeler à nos amis tunisiens et égyptiens pour qu'ils en tirent certaines leçons pendant qu'il est encore temps et pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs que celles commises par le peuple algérien. Car malheureusement, aucune révolution n'est à l'abri d'un retour en arrière. Voilà, je vous remercie. Salut.
Bonjour à tous. J'appelle car je voudrais juste apporter mon témoignage en tant qu'égyptienne née en France. C'est vrai que Moubarak est un dictateur, c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté en Égypte, et que c'est la misère et que l'éducation est nullissime. Mais revenons juste 20 ou 30 ans en arrière. Ma maman était en bikini sur les plages de Port Saïd, je passais mes vacances avec mes cousines, et on pouvait danser. Les plus âgées d'entre elles fumaient même des cigarettes que mon père leur donnait en cachette. Il y a 2 ans, j'y suis retournée avec mon époux. Je n'y étais pas retournée depuis le départ de ma famille de France il y a 10 ans. Et là, ça a commencé dès l'entrée dans l'avion. Une femme m'a demandé à changer de place car elle refusait de s'asseoir près d'un homme, et dès l'atterrissage, toutes les femmes se sont voilées. Mais le pire pour moi, ça a été de voir ma sœur cadette. Thésarde en pédagogie, dans la ville où est né le mouvement des frères musulmans, c'est-à-dire Ismaïlia, ma sœur, est devenue une vraie femme de conviction. Elle refusait de rester à table avec nous car mon mari n'est pas musulman. Elle refusait de lui parler et évidemment elle refusait de se dévoiler devant lui. Elle était convaincue que l'islam tel qu'elle le vivait est le bon et l'unique chemin. Un islam qui refuse la diversité, la laïcité et l'amour de l'autre. Un islam où il n'y a que des certitudes. Alors moi je dis, cher Daniel, que cette révolution est nécessaire. J'espère de tout cœur que les Égyptiens ne s'engouffreront pas dans des revendications religieuses juste par opposition avec l'Occident et dans l'espoir de trouver une identité musulmane tronquée. La démocratie est un grand mot, et je ne suis pas sûre que tous les Égyptiens en saisissent le sens. Mais comme on dit chez nous, Allahu Arlem, Dieu seul le sait. Merci, c'était Nadia de Toulouse.
Bon, Sarkozy, il a donné l'ordre à là-bas si j'y suis d'incarner l'Union pour la Méditerranée, mais c'est très très bien. Au revoir.
Bon, eh ben on a eu la Turquie, maintenant l'Égypte. Eh ben le troisième pays arabe, c'est l'Auvergne. Qu'est-ce qu'ils attendent les Auvergnats, hein, pour faire la révolution? Allez, les Auvergnats, révolution.
CRS, être humain, même combat. CRS, être humain, même combat.
Bonjour, sans ironie aucune, merci monsieur les CRS d'avoir donné une leçon de lutte sociale et de syndicalisme hors pair. Mais oui, 90% des CRS qui se font porter parole parce qu'ils ne peuvent pas faire grève, et le gouvernement y cède en deux jours. Bon ben, c'est tout. Pour les autres revendications, ben, il n'y a qu'à faire pareil, et puis on les aura, puis eux, ils auront peut-être un petit peu moins de travail à encadrer les manifs. 90% en deux jours, ça cède. Et tout ça parce qu'on diminue leurs effectifs. Messieurs, mesdames les enseignants, allez, 90% la prochaine fois. Et puis s'il faut menacer de grève de la faim, à la limite, pourquoi pas, mais simplement, 90% de grévistes, ça serait pas mal, non? Au revoir.
Oui, bonjour. Alors là, la grève des CRS, là, évidemment, on boit du petit lait. Et alors, je me demande combien de grévistes selon la police et selon la police. Allez, au revoir.
Et voilà, merci pour tous ces messages, chers AMG. Alors, vous écoutez la radio, c'est très bien. Vous écoutez là-bas, si j'y suis, c'est très bien. Vous vous intéressez à ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est très très bien. Mais pendant ce temps-là, on en apprend de belles et de fort inquiétantes. Savez-vous, amis auditeurs de là-bas, si j'y suis, et de France Inter réunis, que les Français considère à 33% des Français, selon un sondage IFOP publié par La Croix il y a quelques jours, 33% des Français considèrent que le système capitaliste et l'économie de marché fonctionnent mal, 33%, et qu'il faut l'abandonner. 33% de Français anticapitalistes. Et 52% de Français qui considèrent que ça fonctionne plutôt mal, mais qu'il faut conserver car il n'y a pas d'autre alternative. Mais enfin, vous voyez, 52 qui considèrent que ça fonctionne mal. Alors, on est très inquiet à la base. Si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Il faut absolument que faire quelque chose. Il faut absolument réconcilier les Français avec le capitalisme. Et qui peut le faire sinon nous, là-bas, si j'y suis, qui parlons si souvent de tout ça, de la France, des Français et du capitalisme. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et on a confié cette tâche à un jeune reporter de là-bas, si j'y suis, qui a une ambition, c'est d'obtenir le prix Albert Londres. Vous savez, le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux dans notre métier. Albert Londres, c'est celui qui disait « on n'est pas là pour plaire ». On est là pour remuer le stylo dans la plaie. Il disait stylo, Albert Londres, bien évidemment. Nous, on dit micro. Et ce jeune reporter qui s'appelle Julien Bricot, son truc, c'est de remuer le micro dans la plaie. Donc, on l'a envoyé sur une mission très particulière que vous allez découvrir. On va le suivre minute par minute dans sa mission. Réconcilier les Français et le capitalisme, ça c'est ce qui nous intéresse nous, c'est la mission qu'il a, notre Julien Brigot, et lui, sa mission à lui, c'est d'avoir le prix Albert Londres. On lui a expliqué, on lui dit, tu sais Julien, le prix Albert Londres c'est pour la presse écrite. Il dit, mais ça fait rien, moi je l'aurai avec la radio. Bon, on lui a dit, d'accord Julien, vas-y, et voilà ce que ça a donné, c'est ce qu'on va entendre d'ici à 16h dans la base, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est le Champsaur Libre dans les Hautes-Alpes. Rappel du rendez-vous de ce soir, mardi 1er février, au café L'Aquilon à Saint-Bonnet, pour un café repère autour du thème de l'eau dans le monde, avec une animation à ce sujet. Voilà, à ce soir, bis à tous.
Oui, c'est Ivor, 73 ans, qui vous appelle du Jura vaudois en Suisse. C'était pour dire que Stéphane Guillon et son humour caustique me manquent toujours, mais j'étais heureuse d'apprendre que le conseil des prud'hommes lui avait rendu justice. Celle-ci n'est donc pas toujours aux ordres. Stéphane Guillon me manque, mais la délicieuse Sophia Aram me ravit, surtout quand elle est aussi féroce et drôle que ce matin, lundi 31 janvier. Allez, continuez.
Bonjour à tous, voici un message pour les AMG de Limoges. Le prochain repère aura lieu mercredi 2 février au bar Le Gousset à 18h30. À bientôt et merci à tous.
Salut à tous, un petit message pour annoncer le prochain repère de la Bassi J'y suis qui se tiendra à Dijon demain mardi 1er février à 20h au café Vieux Léon, 52 rue Jeannin. Au programme, un billet d'humeur sur l'état financier et environnemental de notre planète, ainsi que les actualités militantes locales, notamment la loi LOPSI et les mouvements contre LOPSI. Salut!
Créé en 1822 sur les bords de l'Audet en Bretagne, le groupe Bolloré a une longue histoire industrielle. Spécialisé à l'origine dans la fabrication des papiers fins, il a su évoluer au cours des deux siècles derniers et faire face à des évolutions techniques et sociales très importantes. Grâce à son expertise dans le domaine du stockage d'énergie, le groupe Bolloré a développé une batterie électrique de haute performance. Fruit de nombreuses années de recherche, cette batterie fondée sur la technologie du lithium métal polymère permet à un véhicule électrique de disposer d'une autonomie de 250 km et de rouler à 130 km/h sans aucune émission de gaz carbonique. Ces batteries sont produites dans les usines du groupe à Audet en Bretagne et au Canada. Le groupe Bolloré s'est engagé dans deux applications intégrant les batteries LMP et les supercapacités. Avec Pininfarina pour produire et commercialiser une voiture 100% électrique, la Blue Car, et avec la société Gruo dans la production de bus électriques adaptés aux villes.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Julien Brigaud, le premier voyage de presse.
Alors, cher monsieur Calzaroni, journaliste à France Inter, je vous envoie cet email afin de vous demander une accréditation pour la journée du 17 janvier à Ergué-Gabéric. Nous aimerions réaliser un reportage à l'occasion de la pose de la première pierre de l'extension de l'usine de piles du groupe Bolloré et ainsi recueillir les interventions du fondateur et actuel dirigeant, monsieur Vincent Bolloré. En effet, il s'agit pour notre radio publique de réaliser un reportage sur les opportunités que génère l'extension de cette usine, notamment en termes d'emploi et sur les espoirs qu'elle suscite localement. Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, veuillez agréer, monsieur Calzaroni, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bon, ben on va attendre la réponse du monsieur communication de Vincent Bolloré. J'espère que ça sera positif.
Cher Eric, ça va bien ?
Merci à toi.
Mais non, c'est moi qui te remercie. Salut Pascal, ça va bien ?
Tu vas bien ?
Ça va ?
Bon voyage ?
Le maire de Quimper, vous le connaissez tous.
Je connais un peu.
Alors,
ça va bien ? Vous connaissez l'érudition, la culture.
30 années d'amitié avec ces jeunes.
Pardon.
Je suis sur
le format. Très bien, 3 euros.
Tu vas bien ? Ça va ?
Mais non. Il n'y a pas que des marginaux et des chômeurs et des tocards dans les émissions de là-bas. Si j'y suis, vous entendez la musique, là, derrière ? Hein ? Belle musique ! Ah oui ! La classe, il faut dire que là, notre jeune reporter va à la rencontre d'un multimilliardaire emblème le plus accompli du capitalisme à la française. Ce capitalisme auquel nous nous sommes fixés comme tâche de vous réconcilier. Vincent Bolloré, l'homme qui est propriétaire de 42 millions de téléspectateurs à travers... Propriétaire, c'est beaucoup de beaucoup dire, mais il est propriétaire en tout cas de la chaîne de télévision Direct 8, troisième chaîne de la TNT avec 42 millions de téléspectateurs. Il a aussi la chaîne Direct Star. Il s'apprête, selon son directeur Yannick Bolloré, à prendre une autre chaîne de la TNT. Il est également propriétaire des journaux gratuits Direct Plus, Direct Matin, Direct Sport, Direct Azur et leurs éditions de province, Direct Nantes, Direct Strasbourg, Direct Toulouse, un tas de directs partout. Journaux qui sont lus chaque jour par plus de 2,5 millions de Français et qui trônent à la fois dans le foyer Emmaüs en bas de chez Julien Brigot, c'est là qu'il le voit, comme dans la station de métro qu'il prend pour venir jusqu'à la radio. Il lui arrive même de retrouver Direct Plus dans le hall de France Inter. Il a été tenté, Vincent Bolloré, de racheter TF1 en 1997, Libération, La Tribune ou plus récemment le journal Le Parisien, qu'il a qualifié d'occasion extrêmement intéressante. Il est également un des principaux actionnaires de l'Institut de sondage CSA, du groupe Havas, un des 5 plus grands groupes de pub au monde, du groupe de communication britannique Aegis. Il possède via Havas l'agence française de communication Euro-RSCG, très présente en Afrique, et possède des participations importantes dans la société française de production, la SFP, dans l'agence de presse Associated Press, le groupe de cinéma Gaumont, le groupe du producteur de contenu par téléphone Stream Power, et depuis 2008, il siège au conseil d'administration de Médiamétrie, groupe chargé de mesurer l'audience des chaînes de radio et qui détermine les tarifs des publicités. Et là, je ne vous parle pas, évidemment, de Bolloré Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'empire de Bolloré. Voilà, nous sommes en présence d'un homme extraordinaire. Pas tout à fait encore en présence. Qu'est-ce que nous faisons là avec notre jeune reporter? Eh bien, nous allons assister à la pose de la première pierre d'une usine qui va fabriquer des piles, pourquoi donc, enfin des batteries plus exactement, pour la Blue Car, ces voitures qui bientôt, comme les Vélib, vont être dans Paris et puis dans d'autres villes de France et du monde en location, et on pourra rouler tranquillement dans des voitures électriques. C'est une innovation formidable, signée Bolloré, et ça intéresse évidemment notre reporter aspiré, intéressé, passionné, jeune et bouillonnant, qui veut absolument avoir ce prix, gagner ce prix Albert Londres. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, c'est son premier voyage de presse.
Ça va, toi, ça boum. Moi, y'a pas plus cool qu'un cam. Adam font fou toute la gamme. On se connaît pas, mais on s'aime. J'fais attention aux relations.
Reçu aujourd'hui à 16h47 Oui, bonjour Monsieur Brigaud, l'assistante de Tariq Dali chez DGM Conseil. Je vous appelle concernant le déplacement Bolloré pour l'inauguration de l'usine de batterie Gaberic. En fait, on a un petit souci, c'est qu'on a un nombre de places très limité à bord qui s'est réduit hier. On a quelqu'un de France Inter qui sera sur place. Donc on va forcément privilégier cette personne qui est déjà sur place et qui ne prendra pas une place dans l'avion. Voilà, donc on voulait vous dire que finalement on va privilégier plutôt la personne qui est sur place de France Inter. Je vous remercie, une bonne journée, au revoir.
Bon bah voilà, je suis en route. Je devrais bientôt arriver au bout du Finistère. Je me suis levé à 6h ce matin, j'ai emprunté la voiture d'un copain pour arriver suffisamment tôt dans le fief de Vincent Bolloré. Je vais essayer de faire un reportage positif sur la pose de la première pierre de l'usine de batterie de Vincent Bolloré à Ergué-Gabéric. Voilà, il me reste quelques heures pour arriver au bout de la Bretagne là. Voilà, je traîne pas plus longtemps.
Voilà, évidemment, il est impressionné, notre jeune confrère, d'autant plus impressionné que c'est une grande première, cette pose de la première pierre de la nouvelle usine de production de batteries en ce lundi 17 janvier 2011. Le voyage de presse, vous l'avez compris, réservé à la crème du journalisme spécialisé. On part dans un jet depuis le Bourget jusqu'à cette petite localité d'Ergué-Gabéric qui est, on vient de le dire, le berceau de la famille, de la dynastie Bolloré, qui en 2009 a vu son chiffre d'affaires, enfin son bénéfice net, augmenter de façon considérable. Le chiffre d'affaires a été en hausse de 12%, monté donc à 3,3 milliards d'euros. Et c'est un taux de change constant. La croissance des ventes est légèrement moindre à 11%, mais c'est d'excellents résultats pour ce groupe absolument prodigieux. Je vous dis ça pendant que notre reporter voyage et progresse.
Bonjour, Stéphanie Leras.
Bonjour.
Je vous envoyais les gens de la communication.
Vous avez un petit moment, je peux vous prendre 5 minutes ?
Oui, sauf que j'ai plus de voix du tout.
Vous avez plus de voix, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors après vous me posez des questions, comment ça se passe ?
Oui, c'est ça.
Oui, ouais. Vous me dites, allez.
Alors, allez-y.
Oui, bonjour, Julien Varin, je m'occupe de la communication pour le groupe Bolloré, de tout ce qui a un rapport avec les batteries, c'est-à-dire le véhicule Blue Car dédié à Autolib, le microbus et dans un deuxième temps, les batteries stationnaires prévues pour les domiciles. Voilà. Bon, ici, on est à Ergué-Gabéric en Bretagne. C'est un peu le site historique du groupe Bolloré, puisque c'est là qu'ont commencé et ont été mises les premières usines. Et nous sommes là aujourd'hui pour que Vincent Bolloré, en présence du ministre de l'Industrie, pose la première pierre de la nouvelle usine de batterie. On attend la presse locale, bien évidemment, et aussi des journalistes qui viennent de Paris d'ici une demi-heure. Voilà.
Bon, presse locale, ça va être, j'imagine, France 3 ?
Absolument, on va d'ailleurs avoir un direct vers 12h05 de France 3, où on va interviewer le ministre, M. Besson, et M. Vincent Bolloré.
Vous pouvez m'expliquer un peu le dispositif que vous avez mis en place pour les journalistes ?
Absolument. On a tous les intervenants importants qui vont faire le discours. M. Bolloré va commencer. Ensuite, on va avoir M. Besson, donc filmé et interviewé par les journalistes. Ils vont ensuite poser la pierre, donc sur le mur qui est à ma droite, et après, tester en direct, donc la Blue Car. Donc Vincent Bolloré va conduire la Blue Car accompagné du ministre et on va voir le bus qui suit derrière avec quelques officiels et quelques journalistes.
Donc là, ils sont encore dans le jet, c'est ça ?
Ils ont atterri, ils sont à l'aéroport et ils sont sur la route. À mon avis, on les attend d'ici une vingtaine de minutes. Voilà.
On pourra poser des questions éventuellement à M. Bolloré ou comment ça va se passer ?
Écoutez, pourquoi pas, on verra. On va lui demander quand il arrive.
D'accord.
Absolument, absolument.
Et donc après la Blue Car, on va tous au manoir, c'est ça ?
Exactement. Déjeuner au manoir.
Bon, eh ben on attend Vincent Bolloré.
Eh ben on attend Vincent Bolloré pour que l'événement commence.
Très bien.
Merci beaucoup. À bientôt.
Voilà, donc là, on a la musique tambour battant, musique symbolisant le renouveau, l'écologie et l'emploi.
Bonjour messieurs.
Alors Vincent Bolloré arrive, il a une grosse écharpe autour du cou, une petite chaussure noire pointue avec un smoking bleu, la couleur du groupe. Et alors là, il y a tous ses agents là derrière lui, qui sont décontractés, petite cravate quand même.
Tu peux faire un essai ou pas ?
Là, il saisit la pierre en question, la première pierre avec marqué 17 janvier 2011.
Ah ouais d'accord, et après, ah oui d'accord, en fait le discours est là-bas et là, la première pierre est là.
Exactement.
C'est épatant. C'est bon.
Il s'arrête devant la portière de la blue car.
Franchement. Ouais. Super, non ?
Magnifique. Sérieusement.
Ah ouais, ce sera celle d'Autolib'.
La visite ne va pas tarder à commencer, le patchard.
Monseigneur, comment allez-vous ? Merci encore infiniment de venir. Je suis très honoré, très touché.
C'est moi qui suis très touché.
Vous connaissez vos amis,
oui.
Bernard, tu connais Monseigneur.
Oui, je viens de savoir.
Oui, très bien.
Je suis l'évêque de Quimper et Léon. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, parce que quand il a commencé sa carrière, les choses n'étaient absolument pas évidentes. Il a relevé des beaux défis et il a continué, parce que même aujourd'hui, il continue, je pense, à prendre des beaux défis. Et il a une vision sociale, ce qui était tout à fait dans la ligne de son père et de la tradition familiale qui avait fait dans les anciennes usines beaucoup de choses pour les employés. Ils avaient mis avant l'heure un système social qui n'existait pas encore dans notre pays. Donc je pense qu'il y a une vraie tradition sociale chez lui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se plaigne d'appartenir à son groupe. Voilà.
Merci, Monseigneur.
J'en serai. Merci.
Le groupe Bolloré s'investit tout particulièrement dans les domaines de la responsabilité sociale et environnementale. En Afrique en particulier, il favorise la scolarisation ou la recherche d'emploi à travers l'allocation de bourses ou l'attribution de stages. Il a engagé de nombreuses actions dans le domaine de la santé en faveur de ses employés et de leurs familles. Il mène une politique rigoureuse de respect de ses sites et développe des produits innovants qui contribuent à la préservation de l'environnement, comme bien sûr les investissements réalisés depuis 15 ans dans les batteries électriques et supercapacités qui permettent le développement de véhicules véritablement propres.
Enthousiasmant quand on entend ça, non, c'est enthousiasmant. Alors pourquoi est-ce que, selon le sondage que j'ai cité, publié par La Croix, un sondage IFOP, pourquoi est-ce que vous êtes, nous sommes, nous autres Français, 33% à considérer que le système capitaliste et l'économie de marché fonctionnent mal et qu'il faut l'abandonner ? Pourquoi continuons, en nous posant cette question, à participer et assister au lancement de cette entreprise ?
La visite a repris,
pas de charge. Les investissements que nous allons faire, parce que à un moment où
Vincent Bolloré,
la plupart des gens ont envie d'investir en Chine, en Inde et ailleurs, je trouve que des emplois en Bretagne, en France, c'est sympathique.
C'est important l'écologie pour vous, monsieur ?
Ah, très important, bien sûr. La planète, évidemment, rien n'est plus important que tout ça. Les gens à qui nous allons laisser notre terre.
On reprendra les questions-réponses juste après, si ça ne vous ennuie pas. On va aller se mettre là-bas. S'il vous plaît, écartez-vous. Alors maintenant, il faut aller faire le bus, parce que sinon, le monsieur du bus est furieux. Donc maintenant, il faut aller faire le bus.
Moi, tant que tu me fais conduire, ça va bien.
Elle est agréable, non ?
Très agréable.
Éric Besson.
Très direct, hein, beaucoup
oui.
De...
Ah, oui.
Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique.
Beaucoup de puissance.
Beaucoup de couple, beaucoup de...
Mais ce qui est le plus agréable dans la voiture électrique, c'est pour les riverains.
Oui.
C'est-à-dire que tu es parti, il y avait zéro bruit, zéro odeur. Alors maintenant, messieurs, si vous voulez bien, nous allons faire la même chose avec le bus pour pas qu'il y ait de jaloux.
Ça se bouscule un petit peu. On va essayer de rentrer dans le bus électrique, le microbus.
On peut faire conduire le ministre, s'il vous plaît. Tiens, Antoine, descend.
Le ministre au volant.
Oui, avec grand plaisir.
Agent de sécurité, monsieur Le Drian, monsieur Poignant.
Voilà. Messieurs les journalistes, non.
Voilà.
On est dans le bus.
Est-ce que je peux fermer ? Tout le monde est prêt ?
Oui, allons-y.
Voilà. Attention, mesdames et messieurs.
C'est important pour vous, monsieur le ministre, de soutenir les initiatives industrielles de monsieur Bolloré ?
Oui, soutenir un entrepreneur qui prend des risques, qui est enraciné dans son terroir, mais qui a une vue mondiale et globale. Excusez-moi, je cherche le frein, ouais, ça serait mieux que je le trouve, voilà. C'est un entrepreneur qui fait honneur à la France et c'est par ailleurs quelqu'un d'agréable, de contact, décontracté, souriant. C'est agréable d'être en contact avec lui. Oh là 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 là.
C'est pas grave.
Tout va bien parmi les passagers ?
Parfait, conduite impeccable.
Personne n'a de mal de mer. Voilà, mesdames et messieurs, nous approchons du terminus. Avant de descendre, assurez-vous que vous n'avez rien oublié à bord. Sympa, non ? J'ai vu presque le sans faute. J'ai touché légèrement un petit trottoir, mais à part ça, c'était parfait. Bon, sérieusement, là aussi, extrêmement agréable et facile de conduite. Et puis, ce qui est fascinant, c'est cette absence de bruit, cette absence de moteur thermique.
Eric Besson sort.
Major, normalement, vous devez dire, monsieur le ministre, vous avez été remarquable.
Monsieur le ministre, vous avez été remarquable.
Voilà. Voilà. La visite va pouvoir reprendre.
Monsieur le ministre, c'est très intéressant à conduire parce qu'il y a beaucoup de puissance, mais ce qui est intéressant, c'est le non-bruit. Si vous voulez juste vous décaler, voilà. Regardez, écoutez. Écoutez.
RTL.
C'est l'heure de retrouver Autoradio. Rebonsoir Christophe Bourreau.
Rebonsoir Christophe.
23 janvier 2011.
Alors vous êtes un charmeur, ce soir vous nous emmenez pour la première fois à bord de la Blue Car, la voiture signée Vincent Bolloré.
Et cette semaine, il a même posé la toute première pierre d'une nouvelle usine près de Quimper pour fabriquer les batteries de cette voiture. Voilà, un pari technologique, hein, le breton face à tous, un petit peu Astérix, oui. Hein, face au monde entier. Pour Vincent Bolloré qui a tout de même investi 1,5 milliard d'euros dans l'opération, mais visiblement, vous allez l'entendre, il a le goût du risque. Hein.
Nous sommes un groupe familial, donc nous n'avons pas d'investisseurs financiers qui tous les trois mois viennent nous demander où en est la rentabilité, sinon ça fait longtemps que j'aurais été foutu dehors d'ailleurs. Et au lieu de verser des dividendes à ces actionnaires pour qu'ils s'achètent des bateaux plus grands, des maisons plus grandes et je ne sais quoi, eh bien nous les réinvestissons. Ça représente des risques puisque 90% des inventeurs se sont ruinés.
Voilà, un pari à Paris, si
voilà,
je puis dire.
Voilà, il y a un jeu de mots.
À noter qu'il faudra aussi sonoriser cette voiture à l'extérieur, hein, puisque
et
c'est
le bruit qu'il y a à l'intérieur qu'elle mettra à l'extérieur.
Voilà, sinon on ne l'entendra pas et attention aux piétons qui risquent de se faire écraser.
Et notre jingle favori pour annoncer le bon plan RTL Auto Plus de la semaine.
Voilà ce que ça donne quand ça arrive dans votre transistor ou quand ça arrive dans votre journal. Vous voyez une photo de Monsieur Bolloré, tout souriant devant la petite voiture bleue, la Blue Car. Voilà, et ben, mais comme là, vous assistez aux coulisses, comment ça se fabrique, comment les journalistes s'y prennent, comment ils se déplacent, etc.
À l'intérieur, ce sont des avions classiques, bois, cuir, voilà, très sympa, qui sont vraiment très utilisés par tous les hommes d'affaires au départ de Paris.
D'accord. Alors vous êtes pour Europe 1 et vous êtes pour RTL,
oui.
C'est ça? Comment ça s'est passé ce matin? Expliquez-nous un peu.
Bah, c'est un voyage de presse classique, c'est-à-dire qu'on arrive au Bourget, et où en fait ce sont des avions d'affaires, et voilà, c'est un démarrage assez rapide pour pouvoir être rapidement sur place. Donc c'est souvent utilisé pour des déplacements, que ce soit pour PSA, Renault, ce type d'entreprise qui veulent aller vite sur un endroit, et pas les passages de douane, non, ça va très vite.
Moi c'est la première fois que je prenais un avion comme ça, c'est vrai que bah, c'est l'avion qu'on voit dans les films, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est Jean-Pierre, ronce de noyer, et on est très confortablement assis, on a une belle hôtesse qui nous sert, et puis on a tout ce qu'on désire.
Bonjour.
Oui, bonjour. Monsieur Brigaud à l'appareil, je vous appelle pour prendre connaissance de vos tarifs pour la location d'un jet d'une vingtaine de personnes.
Alors, notre jet, un maximum, enfin le plus gros de notre jet peut contenir que 14 personnes.
D'accord. En fait, ça serait pour faire le trajet, donc le Bourget jusqu'à Quimper.
Oui, avec quel type d'avion?
Un Falcon, hein, par exemple.
D'accord. Et ce serait un aller-retour dans la journée?
Tout à fait, oui. Départ le matin à 9h.
Oui.
Retour vers 15-16 heures à peu près.
D'accord. Alors, je vous donne le prix pour la location. Ça fait 22 999, on va dire 23 000 euros, tout compris.
Bon, 23 000. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Rasta populos, hommes pétris d'arrogance et de vice. A des résidences à Samos, au Bahamas et à Byzance. Son épouse à Samothrace et sa maîtresse en Cappadoce. Des unes aux autres, ils sont à bord de son jet monoplace. C'est jour après jour, il amasse tant et plus de caillasses. Car Rasta Populos, c'est un cadre du négoce, expert en la manipulation des liasses et des masques.
France 3.
Bonjour, merci de nous retrouver pour votre édition Ouest Bretagne, Pays de la Loire. Tout de suite, ces images.
17 janvier 2011.
Il y a quelques minutes, Éric Besson, le ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, est arrivé à Erguet-Gabéric, près de Quimper. Il doit poser la première pierre de la nouvelle usine de l'homme d'affaires breton Vincent Bolloré. Cette usine doit produire des batteries pour voitures électriques, un investissement de 250 millions d'euros. Nous sommes justement en direct d'Erguet-Gabéric.
Chers amis, je vous remercie d'être venus aujourd'hui.
Vincent Bolloré.
Il y a exactement 189 ans, Guillaume Bolloré et François Lemarié regardaient la pose de la première pierre des papeteries Bolloré. Il y a 76 ans exactement, mourait René Bolloré, que nous avons accompagné hier soir avec un certain nombre de fidèles dans une messe de souvenirs. Et il avait été en particulier responsable de beaucoup de développement dans cette commune, des écoles, des cités ouvrières. C'était avant 36, à un moment où ça ne se faisait pas beaucoup. Et donc vous imaginez comme je suis fier aujourd'hui, toujours à Erguet-Gabéric, à côté de Quimper, sous l'œil de la 7e génération, Cyril Bolloré et Sébastien Bolloré, qui sont quelque part par là, me regardent avec vous poser la première pierre de cette nouvelle usine. Alors, tout le monde se dit, pourquoi Bolloré ? L'encre a beaucoup coulé avec l'histoire Autolib, parce que finalement, ça plaisait bien aux gens que, un peu comme une danseuse, à l'intérieur de notre groupe, qui fait partie des 500 premiers groupes mondiaux, on s'amuse à développer quelque chose, ça restait confidentiel, un peu prototype, et puis, coup de tonnerre, nous avons été choisis, et nous avons réussi un certain nombre de compétitions qui montrent que ce qui se développe ici n'est pas du tout une danseuse, mais peut-être quelque chose de très important pour l'avenir. Et puis je suis évidemment très heureux d'avoir à la fois les amis de toujours. Vous savez que je suis arrivé quelques jours après Bernard Poignant, il y a 30 ans. Et le ministre de l'Industrie, Éric Besson, je te remercie mille fois d'être venu avec l'ensemble des corps constitués. Merci infiniment à vous tous. Et je vous retrouve après les discours qui suivent pour la pose de cette première pierre. Et je pense que dans le livre du bicentenaire, en 2022, je vous rappelle que ça s'approche quand même, mine de rien, il y aura une grande fête le 17 février 2022, et nous referons une plaque comme celle qui a été posée pour le centenaire de 1922.
Voilà, donc tout le monde se met en place. La cinquantaine de journalistes présents est en train de prendre place devant la première pierre.
Pardon les jeunes. Alors c'est très 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 lourd, parce que ici c'est du granit.
C'est une bêtise en fait, elle va rester.
Mais bien sûr qu'elle va rester. Ouais, ouais. C'est pas une bêtise, c'est une erreur. Te l'avait pas précisé. Voilà, donc nous allons ensemble pousser cette pierre, d'accord, tous ensemble, avec, à plusieurs mains, mes amis. Et alors là, le moment compliqué, c'est de la basculer. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Vous voulez des photos ? On va faire des photos.
Ouais, ça y est, ils ont les photos là, c'est bon. Allez.
Venez ici, monsieur Platon, si vous voulez bien. Je me sens plus en sécurité. Alors, qui a des questions ? Alors.
Sur l'espionnage, est-ce qu'il y a des mesures à prendre aujourd'hui pour protéger justement votre technologie ?
Nous, il y a 5 ans, on a eu des problèmes avec une effraction très spectaculaire, avec 14 personnes qui sont arrivées et qui ont monté 150 mètres en rappel. Enfin, c'était très très impressionnant ce qu'on a vu, et qui ne sont repartis avec rien. Donc on a pensé qu'ils avaient pris plutôt des photos d'un certain nombre de documents, mais donc depuis très longtemps, nous sommes extrêmement sensibles, et vous voyez que toutes ces usines sont sécurisées, et puis vous savez, à Erguet-Gabéric, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive d'étranger, on le repère tout de suite.
Juste, vous pouvez nous redire ce dont va bénéficier le groupe Bolloré ?
Le groupe Bolloré va bénéficier d'un prêt sur 10 ans de 50 millions d'euros.
Éric Besson.
Dans le cadre de ce que nous faisons en faveur du véhicule du futur et du véhicule électrique.
Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique.
Nous allons l'aider comme nous aidons les autres entreprises qui travaillent sur cette filière.
Mais enfin, ce ne sont que des prêts, sans vouloir aussi contrarier M. le ministre, ce ne sont que des prêts que nous remboursons et qui sont au même taux que ceux que nous avons dans les banques classiques. Mais ça nous intéresse beaucoup parce que l'État français venant
comme la Banque européenne d'investissement, nous prêter de l'argent vient quelque part reconnaître à la fois la signature de notre entreprise, mais la technologie, les efforts technologiques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Monsieur Merci Bolloré, beaucoup. On va aller déjeuner. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Oui.
J'ai une dernière question. Oui. En fait, vous nous amenez ici aujourd'hui dans votre un petit peu dans votre vitrine. Oui. Et ce que je voulais vous demander, c'est que est-ce que d'une certaine manière, c'est pas une façon pour vous de nous faire oublier toutes vos activités africaines,
mais notamment. Je ne vois pas pourquoi vous les oublierez. Elles sont remarquables, nos activités africaines. Nous investissons beaucoup d'argent. Nous créons beaucoup d'emplois. Et donc tout ça est très positif, vous vous trompez, vous n'avez pas été voir sur place, vous devriez aller voir sur place. Pardon,
non. Le directeur de la communication se met. Pourquoi vous me bloquez le passage ?
Je ne bloque pas parce qu'il va y aller, je suis sur un timing. On a un timing, on a 20 minutes de retard, je suis désolé.
Désolé.
On pourra poser des questions au manoir peut-être ?
Oui, on essaiera.
Okay. Bien sûr.
Depuis 25 ans, le groupe Bolloré croit en l'Afrique et réalise la plus grande part de ses investissements sur ce continent. Au fil des années, il y a bâti le plus important réseau intégré de transport, dont l'ensemble des activités est désormais regroupé sous une marque commune, Bolloré Africa Logistics. Il est devenu un acteur essentiel de la gestion des terminaux conteneurs, présents dans les principaux ports africains, comme Abidjan en Côte d'Ivoire, Douala au Cameroun, Tema au Ghana, Lagostinka au Nigeria, Libreville au Wendo au Gabon, Pointe-Noire au Congo et plus récemment Cotonou au Bénin.
Oui, c'est ?
C'est la Radio France.
Oui, vous mettez là.
Merci. On arrive sur la petite route du manoir. Là, à notre droite, les usines avec les toits coniques pour laisser passer la lumière. Ça, c'est les anciennes papeteries. Oh là là, on aperçoit le buffet. Ça a l'air somptueux. On entre dans la dynastie Bolloré.
Champagne ?
Non. Non, merci. Langoustine, rôti, mayonnaise, concombre, pommes de terre. Et de la truite, du saumon. Le prêtre est là. Donc on est dans le salon de Vincent Bolloré. Donc là, le ministre est assis à la droite de Vincent Bolloré. Alors les officiers de police sont là. Excusez-moi.
Il y a l'étage pour vous installer, puis ce serait bien que vous coupiez votre micro. Hein ?
Les journalistes.
Il y a entre ici.
Comme je ne vous ai pas visualisé tout à l'heure, est-ce que vous avez une carte de presse ? Vous me la montrez, puis après je vous laisse tranquille.
Oui, bien sûr. Oui.
Parce que il y avait tellement de monde, et vous, je ne vous ai pas reconnu. Voilà, super, très bien. Patientez là, on va venir vous placer.
On peut peut-être faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Vincent Bolloré ? Vous qui êtes ces ouvriers qui le connaissaient un peu.
Ici, on a une superbe région. Et justement, il y a de la création d'emplois qui se fait. On ne peut être que réjoui. Je connais pas beaucoup de patrons qui créent des emplois à l'heure actuelle. Bien au contraire.
Je pense qu'il incarne la réussite à la Bretonne. Et on a la chance, je pense, de l'avoir, effectivement. Des fois, il peut être décrié. Je pense que c'est quelqu'un de très social. Ça va aussi dans le sens de ce qui a été dit.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Du poisson, il aime bien le poisson, j'ai l'impression.
Oui, si c'est toujours été ça.
Alors là, pendant qu'on parle, il y a des images de SDV Gabon. De toutes ces entreprises présentes en Afrique. Vous connaissez un petit peu le volet de ces possessions africaines ?
Oh non. C'est que nous, on n'est pas trop concernés là-dessus, donc comment on est au niveau de l'énergie, batterie.
Il s'agit du contrôle des fret des transports maritimes. Voilà, donc en fait là, justement, je crois que c'est vrai que ça bouge tout le temps, c'est difficile à suivre.
200 agences dans 41 pays africains.
Ouais. Notamment, en particulier, l'Afrique centrale, qui va du Sénégal jusqu'à...
Côte d'Ivoire.
Voilà, Côte d'Ivoire, Ghana.
C'est incroyable, les bêtises qu'on peut lire dans les médias, dans la presse. Regardez, les journalistes Antoine Glaser et Stephen Smith appellent M. Bolloré... Dans leur livre « Ces messieurs d'Afrique », ils l'appellent le plus cannibale de tous les messieurs Afrique du business français. Vous vous rendez compte des âneries qu'on peut lire ? Et là, ça chauffe la tête de ces jeunes journalistes qui se prennent pour Albert Londres, évidemment, parce que Julien, qui est là, rêve, se prend pour Albert Londres. Voilà.
Comment ? Vous voulez que je vous suive ? Là, je vois que vous remettez des cadeaux aux gens. Qu'est-ce que c'est ?
Je vous expliquerai d'abord.
Ah, d'accord. Très bien. Voilà, donc on est sur le perron. Les directeurs de la communication veulent me parler.
Ah, donc, on s'est bien entendu. On va se voir l'autre, là.
Dites-moi.
Terminé pour nous.
Comment ?
Votre présence n'est pas nécessaire ici.
ma présence n'est pas nécessaire. Non, pour quelle raison?
On ne vous a pas invité, vous êtes là depuis ce matin, il y a beaucoup de journalistes qui étaient là.
Ah, mais je suis invité, moi.
Non, attendez, maintenant ça suffit.
Et j'ai le papier d'invitation là, si vous voulez.
Oui, non, mais peu importe, c'est pas grave, ça y est, des gens s'en vont, c'est terminé.
Mais pourquoi?
L'opération est finie.
C'est comme ça, c'est pour toi.
Je vais quand même essayer d'aller lui poser la seule question que je suis venu.
Ça y est,
terminé.
Pourquoi?
On n'a vraiment pas envie.
Attendez, vous invitez des journalistes dans votre jet et vous interdisez aux journalistes de poser des questions. C'est quoi la logique?
Votre appareil.
Je suis en train de travailler.
Je suis en train de vous dire, nous aussi on travaille.
Bah oui, d'accord.
Monsieur Bolloré travaille également. Il a eu un point presse, il a répondu à toutes les questions, donc point final. Voilà, maintenant il part, il a d'autres rendez-vous, donc c'est pas la peine de l'importuner comme vous le faites depuis une heure.
Mais je l'importune pas.
Mais si vous l'importunez, monsieur Bolloré, à des invités, il reçoit ses invités, c'est plus le moment. Voilà.
Ouais, enfin, sur 5 heures de visite, ça a duré 10 minutes les questions de la presse.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez d'autres questions?
10 minutes sur 5 heures.
Et alors, quel est le problème?
Ça fait même pas 2% du temps consacré à répondre aux journalistes.
Il est 14h30, le timing est en retard, voilà, désolé.
C'est du dénigrement systématique. C'est assez désagréable. Vous voyez, ici, on a des gens sérieux, il y a des usines, il y a des milliers de gens qui travaillent. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de poser ce genre de questions toujours tendancieuses.
Ah bon? Il faut surtout poser des questions que Vincent Bolloré.
Pas du tout, monsieur Bolloré, écoutez, excusez-moi, il est totalement ouvert, il n'y a aucun problème.
Ah oui, d'accord. Alors, bon, je vais aller voir la Blue Car quand même.
Allez la voir. Si
non, il va voir rien du tout, c'est bon, fini. Alors. Non, c'est terminé. Et pour, s'il vous plaît.
Plus de 1000 stations. 1000 stations sur.
Ah, vous vous mettez devant moi,
la monsieur. La voiture de demain.
Excusez-moi, mais sinon, on est obligé de refaire.
Ah, bah oui, mais. Oui, mais c'est compliqué.
Allez, s'il vous plaît, vous empêchez les gens de travailler.
Vincent Bolloré.
Vous êtes prié de sortir, s'il vous plaît. On vous l'a dit 3 fois, maintenant ça suffit.
Mais
vous sortez.
Mais je veux vous poser une seule question,
vous
monsieur.
Allez, on y va, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Hop. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez
peur de quoi? J'ai plus envie de discuter, je vous le dis gentiment une fois.
Mais attendez, mais moi j'ai.
Ça, tu le sors.
Vous touchez pas à mon micro.
Maintenant, je vous le fais gentiment. Sinon, je le fais autrement. Je travaille à la sécurité aussi. Maintenant, je vous le fais autrement.
Ah, oui, d'accord.
Mais qu'est-ce que vous faites avec mon matériel?
Vous ne me touchez pas, mon matériel. Oui, ça vous dérange pas, vous, les confrères, de voir...
C'est pour ça que je viens discuter avec toi et leur demander ce qui se passe.
Voilà, et il faut leur demander ce qui se passe. Apparemment, je gêne.
C'est vrai que tu les as interrompus 2 fois, c'est chiant. Mais bon.
Non, mais c'est eux qui m'ont interrompu, excusez-moi. Journaliste d'Auto Plus qui me dit que j'ai interrompu les gens.
S'il y a juste des tours de parole, tu demandes
à
Michel si tu peux, si tu peux faire une interview. Après, tu peux poser toutes les questions que tu veux, tranquille.
D'accord. Mais j'ai toujours pas pu la poser, ma question.
Oui. D'accord. Okay.
Voilà, c'est ça l'histoire. Moi, j'attends avec vous alors. Vous avez pas pris le petit cadeau?
Le petit cadeau de quoi?
Regardez, ils ont tous un beau petit sac Bolloré.
C'est plan comme habituel, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs?
C'est pas surprenant. Tu sais, quand tu vas essayer des bagnoles en Suède. Il te paye l'hôtel, il te file une petite voiture, il te file la clé USB qui va avec. Ça, c'est le plan com classique.
D'accord,
quoi.
C'est habituel.
Ouais, mais bon, c'est l'échange de bons procédés.
Mais j'enregistre tout, monsieur. Je suis là pour ça.
Bon, maintenant une seconde.
Il est en train d'essayer de voir si ta question est valable ou pas.
Ouais.
En fait, là, c'est ça, tu vois.
Donc, on est dans le sas, on est au purgatoire.
Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, ça se passe comme ça, un voyage de presse. Enfin non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça avec un énergumène qui est tombé un jour sur un texte d'Albert Londres et qui a cru que le journalisme, c'était ça, c'était Albert Londres, un rêveur.
Non, mais bien sûr, je réponds aux questions, il n'y a aucun problème.
Bonjour, monsieur Bolloré.
Bonjour.
Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est aujourd'hui, vous créez de l'emploi dans le Finistère. Donc, d'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait rare et appréciable. Et ma question, c'est finalement, vous nous emmenez dans votre vitrine. Ici, on est devant votre manoir à Arrigabéric. Les journalistes sont venus de Paris aux frais de votre groupe. Ils ont mangé ce midi aux frais de votre groupe. Et finalement, ma question, c'est est-ce que tout ça n'est pas destiné un petit peu à nous faire oublier les amitiés que vous avez avec des chefs d'État africains qui ne sont pas tellement démocratiques? Je pense notamment à Paul Biya, Denis Sassou Nguesso ou plus récemment M. Ben Ali qui a dû fuir. En Tunisie, vous aviez l'agence Havas dont le directeur est marié avec la fille de Ben Ali. Donc ma question, elle est celle que je voulais
vous poser. C'est plus une question. Ça n'est plus une question, c'est une démonstration. Non, un groupe comme le nôtre a plusieurs activités. Dans ces activités, il y a une activité dont on est très fier aussi, c'est tout ce qu'on fait sur le continent africain. Nous y sommes allés à un moment où personne ne voulait y aller. Nous y créons beaucoup d'emplois, nous y développons beaucoup de choses. Alors maintenant, vous parlez de la démocratie de certains pays, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes dans aucun pays qui ne sont interdits par les listes ou de l'ONU ou de l'Europe. Donc nous ne travaillons que dans les endroits où c'est légal. et avec des gens qui aujourd'hui sont à la tête de leur pays. Et nous y développons beaucoup d'argent, ne vous trompez pas, ce que nous faisons en Afrique est remarquable. Et vous devriez venir, je vous assure, regardez, on est prêt tout à fait à vous inviter. On ne pense pas du tout que les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui, parce qu'on les a amenés en Bretagne, ce que tout le monde fait quand on les amène dans des voyages où on l'offre à déjeuner, on serait capable de les acheter pour ça. Ce serait vraiment très lamentable de penser ça de journaliste. Je pense qu'on fait, comme toutes les entreprises, un certain nombre d'efforts. Et en ce qui concerne, et ici sur les batteries pour l'écologie, et en Afrique, je vous assure que je suis très fier de ce qui se fait. Franchement, demandez à M. Calzaroni de vous monter quelque chose. Vous verrez, on développe des plantations, on développe des trains, on développe des choses. Alors, il y a des pays, bon, la Somalie, on n'a pas le droit d'aller, on n'y va pas.
Mais c'est grâce un petit peu à votre entre-gens politique sur place. C'est-à-dire, par exemple, au Cameroun, c'est avec la fondation de la femme du président Paul Biya que vous arrivez finalement à être très proche d'une caste politique dirigeante. Et finalement, ce scénario se répète un petit peu dans tous les pays africains.
Mais est-ce que vous croyez que nos clients viennent parce qu'on est proche d'une caste? Non, nos clients, ce sont des armateurs qui sont M. Maersk, le Danois, M. Exxon, le pétrolier, M. Michelin, le fabricant. Nos clients, ce ne sont pas les hommes politiques. Les hommes politiques, comme en France, ne peuvent rien nous apporter. Comme vous le savez, il y a la fameuse histoire du président Sarkozy sur mon bateau. Qu'est-ce qu'il a pu nous donner? On ne vend rien à l'État français. C'est toujours la même histoire. À chaque fois, on essaye de faire monter. Nous ne le faisons pas. Donc, qu'on soit proche ou pas proche de patrons, de ministres ou de chefs d'État africains, n'apporterait rien à nos affaires. Donc, je crois que ce qui fait qu'on a réussi en Afrique, c'est que ça fait 25 ans qu'on investit dans des hangars, dans des entrepôts, dans des camions, qu'on a formé 2000 cadres africains, qu'on leur a permis de suivre des écoles. Donc, je vous assure, venez sur place voir. Je ne crois pas du tout que nous réussissions.
Vous nous invitez aussi.
Ah oui, mais attendez, vous êtes les premiers à être invités. Moi, ça m'intéresse. Allez en Afrique, voyez des choses pas bien, dites-le moi, je vous assure que je les arrêterai. Je vous invite volontiers. Allez regarder et revenez me voir derrière si ça ne marche pas.
Alors, on va où en premier alors?
Ben, où vous voulez. Allez. Tout pays. Non, mais sans blague, tout pays. Cameroun, Ghana, Nigeria. Allez voir l'huile de palme aussi. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que des gens comme vous qui êtes jeunes et prêts à aller à l'information, vous devez aller au contact de gens comme nous pour voir si ce qu'on dit est vrai ou pas vrai. Et moi, ça m'intéresse parce que si ce n'est pas vrai, je le change avec joie. Pardonnez-moi, je vais rentrer parce que j'ai un peu froid. Vous y allez ?
Oui, il faut qu'on y aille.
Non, mais faites le voyage pour de vrai. Hein.
Oui, oui. Bah, parce que je ne sais pas où aller, à Tunisie, Cameroun.
Tunisie, on n'y est pas.
Avec Abbas.
Ouais.
Un petit peu.
30 personnes, oui.
Ouais. Non,
mais enfin, c'est rien. Les gros. Salut Marcel, pardon. Ah bon.
T'es qu'un conquisinien. J'ai raison et t'as tort. Et je suis ton patron. Sans moi plus de pognon. Toi et tous tes copains. Vous refaites ma toiture. Vous entretenez mon jardin. Et vous lavez ma voiture. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Et avant le repas vous bénirez le boss. Puis tu rentreras chez toi voir ta femme et tes gosses. Et avant le repas vous bénirez le boss. Le boss.
Il est 16h, je viens juste d'arriver à l'aéroport de Quimper. Voilà, donc il est là, il est sur le tarmac, il est en face de moi. Il est de taille modeste, donc c'est un petit jet blanc avec un petit bandeau bleu sur l'arrière. Là, je passe à côté des bureaux administratifs. Et à gauche, il y a une petite maison avec une serre, des légumes. Voilà. Le son de la liberté de la presse.
Et c'était un reportage de Julien Brigaud. Merci à Éric Héranval, à Emmanuel Gonsalves, les grands reporters prix Albert Londres. 100 reportages d'exception de 1950 à aujourd'hui a été publié tout récemment chez Les Arènes. Vous retrouverez aux éditions Les Arènes. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Basile Bocquer. Koye Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission modeste et géniale et qui réconcilie, nous en sommes sûrs, les Français avec le capitalisme et l'économie de marché. Nous sommes assistés par Agnès Lebot et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Des forfaits auto ajustables trop forts.
Pardon ? Avec sa nouvelle assurance auto, MMA invente les forfaits auto ajustables.
Tu estimes les kilomètres que tu fais dans l'année et tu choisis le forfait le plus adapté des 6 forfaits auto. Tu payes juste comme tu roules.
Et si au final tu roules plus que prévu ?
Allô MMA, et ton forfait s'ajuste ?
Et si tu roules moins ?
MMA, c'est kilomètres non roulés,
kilomètres remboursés.
Zéro tracas.
MMA, c'est le bonheur assuré.
MMA.
Offre soumise à condition.
Voilà, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour La Basse, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Les Égyptiens ont répondu à l'appel. Ils sont des centaines de milliers à manifester un peu partout aujourd'hui en Égypte pour exiger le départ du président Hosni Moubarak. L'opposition espérait 1 million de personnes dans la rue. Impossible de savoir si ce chiffre symbolique est atteint, mais c'est une véritable marée humaine qui continue de déferler dans le calme sur la place Tahrir au Caire. Forte de cette mobilisation historique, l'opposition refuse toute négociation avec le pouvoir, pas tant qu'Hosni Moubarak n'aura pas quitté son poste. Principale figure du mouvement, Mohamed El Baradei intime au président de partir d'ici vendredi au plus tard. L'armée bloque les accès à la capitale et des hélicoptères survolent le centre, mais on ne signale aucun geste de répression de la part des militaires. À Alexandrie, ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes au centre de la ville, 2000 à Suez, dans l'est du pays. Pendant ce temps, les États-Unis évacuent le personnel non essentiel de leur ambassade au Caire. L'administration américaine a déjà recommandé à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Égypte. Même recommandation des autorités allemandes qui déconseillent tout voyage, même dans la zone touristique de la mer Rouge. Enfin, la France va affréter des vols spéciaux cette semaine pour permettre à tous les expatriés qui le souhaitent de quitter le pays. Le roi Abdallah de Jordanie prend sans doute les devants. Il vient de renvoyer le Premier ministre Samir Rifaï, dont des manifestants réclamaient le départ. Il a nommé Marouf Bakrit, un ancien militaire qui a déjà occupé ce poste. Le palais royal l'a chargé de mener de réelles réformes politiques. Et puis en Syrie, l'opposition appelle via Facebook la population à manifester vendredi après-midi contre la monocratie, la corruption et la tyrannie dans le pays. En Tunisie, le gouvernement de transition se réunit pour faire le point sur la situation sécuritaire dans le pays. Les troubles continuent, notamment dans la région de Kasserine, la principale ville du centre. Plusieurs bâtiments, dont la sous-préfecture et un lycée, ont été attaqués hier. Ce matin, l'armée a dispersé un groupe d'un millier de jeunes dans le centre-ville. Sur le littoral sud du pays, c'est la communauté juive qui s'inquiète après l'incendie hier soir d'une synagogue. En conséquence, il est peu probable que le gouvernement lève le couvre-feu en vigueur en Tunisie depuis le 13 janvier dernier. Et puis des précisions justement sur le matériel anti-émeute envoyé par la France en Tunisie et qui avait été bloqué in extremis à Roissy juste avant la fuite du président Ben Ali le 14 janvier dernier. Le gouvernement français avait bien donné son accord pour cette livraison, entre autres de grenades lacrymogènes, accord donné le 12 janvier alors que les manifestations et la répression duraient depuis un mois. C'est ce que reconnaît le Premier ministre François Fillon dans un courrier au président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, courrier cité par l'agence Reuters. Le 14 janvier, les douaniers de l'aéroport de Roissy avaient intercepté le matériel et interrogé leur hiérarchie. Et ce n'est que le 18 janvier, 4 jours après le départ de Ben Ali, que les autorisations officielles de livraison de ce type de matériel à la Tunisie ont été suspendues. La ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, avait déclenché la polémique en proposant l'aide de la France aux forces de sécurité tunisiennes. Un corps de femme non identifié a été retrouvé dans un étang à Lavaux, près de Saint-Nazaire. On pense bien sûr à Laetitia, la jeune femme disparue à Pornic, à une quarantaine de kilomètres, il y a 2 semaines. Mais il n'y a aucune certitude pour l'instant. Le corps est toujours immergé et la police scientifique est sur place. La moitié des crèches de la ville de Paris sont restées fermées aujourd'hui du fait d'une grève des directeurs et directeurs adjoints. Ils demandent un allègement de leurs tâches administratives de plus en plus nombreuses. Une réunion à la mairie n'a pas permis de trouver d'accord.
Cette semaine, dans Le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Mathieu Bogarts.
Danse, danse, danse avec ta jambe, danse avec ta jambe parce que c'est gay.
Renaud Papillon Paravel. Di Canegarn. Et Freddy Coella.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
Et à 16h04, le rendez-vous classique pour la musique, c'est Frédéric L'Odéon et le Carrefour de L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, il nous a quitté dimanche, John Barry, Barry on va dire en français, avec notre prononciation à nous, John Barry, donc compositeur de musique de film, né en 1933 en Angleterre, à York, et qui a écrit pas mal de BO, de bandes originales pour James Bond. Ça a commencé en 1962 avec James Bond contre Dr No. Il y a eu un épisode très important à nos yeux, qui aimons beaucoup, Jane Birkin. Bah, il a épousé Jane Birkin et ils ont eu une fille, Kate. Ils ont divorcé en 68, ils étaient mariés en 65. Ensuite, la musique de Macadam Cowboy de John Schlesinger. Barry a en plus là, empoché le jackpot en écrivant la musique d'Amicalement Vôtre, série qui est devenue culte à la télévision. Ensuite, Cotton Club de Francis Ford Coppola, donc musique de film Out of Africa de Sidney Pollack, Danse avec les loups de Kevin Costner. Et il est mort donc dimanche dans l'état de New York. On va le saluer, l'homme aux 5 Oscars. On va le saluer avec un extrait de la bande originale de Goldfinger. Thank you. Un extrait de la bande originale de Goldfinger, musique de John Barry, interprétée par Richard Heyman et son orchestre symphonique. Voilà, il nous a quitté, ce grand compositeur de musique de film. Et vous savez que pour le cinéma, vous avez une émission sur France Inter, samedi à 10h, on aura tout vu, avec Christine Masson et Laurent Delmas, bien sûr, qui développent tous les sujets autour du cinéma et quelquefois la musique aussi. Franz Liszt, oui, on célèbre son anniversaire cette année, son bicentenaire. Et puis surtout, on a un disque là qui vient de paraître, une réédition. Georges Tsifra à Prague, juste avant le coup de force de Prague, 56, l'entrée des Soviétiques. Et le départ du même Tsifra d'ailleurs vers notre pays, où il a connu un triomphe immédiat. Après ça, il y a eu des discussions comme toujours en France, mais c'est un virtuose prodigieux, un Rome, il faut le rappeler d'ailleurs, qui avait subi des camps d'internement, la difficulté de vivre dans ses camps, on l'a obligé à porter des pierres énormes, du béton, etc. Et quand il est arrivé à Paris, il portait d'ailleurs